Au sommaire de ce journal, sommet de l'OCS, l'Iran cherche à jouer un rôle plus actif dans la région, a déclaré le président Raïsi avant son départ pour l'Ouzbékistan. PGAC, un accord peut être trouvé si la partie américaine est réaliste. Déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Et puis la rencontre du chef du Hamas avec plusieurs hautes autorités russes à Moscou. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Ebrahim Raïsi a quitté ce mercredi Téhéran pour l'Ouzbékistan pour une visite qui vise à renforcer le multilatéralisme et la coopération entre les États voisins. S'exprimant avant son départ vers la ville de Samarkand, le président iranien a exprimé l'espoir que la visite contribuerait à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines. Il a également souligné l'importance d'utiliser les infrastructures disponibles pour la mise en exploitation des potentiels régionaux. Au cours de son séjour, Ebrahim Raïsi tiendra une série d'entretiens avec de hautes autorités ouzbèques. Les deux pays devraient signer 18 documents de coopération bilatérale. S'exprimant toujours avant son départ, le président a indiqué que l'expansion des relations avec les voisins et les pays de la région demeure l'une des priorités et la politique de principe du 13e gouvernement. Dans la première étape, nous avons pu renforcer la confiance politique mutuelle et pour un deuxième pas, nous suivons l'augmentation du rôle de la République islamique d'Iran et sa présence active dans la région, a-t-il fait valoir. Ebrahim Raïsi assistera ensuite au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tiendra à Samarkand les 15 et 16 septembre. La visite s'effectue à l'invitation du président ouzbek pour une rencontre bilatérale officielle et pour participer au sommet de l'OCS en tant que membre permanent depuis septembre 2021. L'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, réunit la Russie, l'Inde, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran. Les pays comme l'Afghanistan, la Biélorussie et la Mongolie disposent d'un statut d'observateur. Et la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Cambodge, le Népal et le Sri Lanka sont les partenaires du dialogue de l'organisation. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il était toujours possible de parvenir à un accord final sur la relance de l'accord multilatéral nucléaire de 2015 si la partie américaine agissait de manière réaliste. Hossein Amir Abdollahian a tenu ses déclarations lors d'un appel téléphonique mardi avec son homologue nigérian Geoffrey Onyema. Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé l'engagement de Téhéran à poursuivre les négociations avec les autres parties à l'accord conclu sous le nom du Plan global d'action conjoint sur le nucléaire, PGAC, ou JCPOA, selon son acronyme anglais. Le très haut diplomate iranien a dit Téhéran déterminé à parvenir à un accord solide et durable avant d'exprimer l'espoir de voir l'agence nucléaire de l'ONU, AIOA, remplir ses fonctions techniques loin de toute politique politisée. L'Iran fustigeant récemment les politiques partiales et partielles de l'agence viennoise avait déclaré que les allégations du chef de l'AIOA sur une prétendue absence de réponse de Téhéran sur la question des sites non déclarés manquaient de fondement juridique. Téhéran dit qu'il remplirait ses engagements liés au PGAC une fois l'accord en agonie du PGAC rétabli, les sanctions levées et les autres parties signataires du pacte retournées à leurs obligations vis-à-vis de l'Iran en vertu de l'accord. L'Iran et les autres signataires de l'accord attendent maintenant une réponse officielle des États-Unis qui ont unilatéralement quitté l'accord sous le milliardaire Donald Trump en 2018. Pour Téhéran, les accusations fabriquées et politisées proférées par l'Agence internationale de l'énergie atomique et la partie occidentale, alimentées par des tierces hostiles contre Téhéran, qui demeurent source de tension, devraient être définitivement résolues au Conseil des gouverneurs de la IOA avant de la conclusion de tout un accord. Un potentiel accord attendu à Vienne visant à lever les sanctions et à restaurer le PGAC ne devrait avoir aucune ambiguïté et doivent entièrement assurer les intérêts nationaux du peuple iranien, insiste Téhéran. L'Iran rejette les allégations du directeur général de l'AIOA concernant une prétendue lacune dans les réponses de Téhéran à l'agence sur le programme nucléaire du pays. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, ou IOA, réagissant aux allégations de Raphaël Grossi concernant un vide de surveillance, les a qualifiées de sans fondement juridique. Behrouz Kamolbandi a déclaré que Grossi faisait référence à une question liée à l'accord de 2015 qui n'a jamais été pleinement respectée par la partie d'en face. L'existence d'un prétendu vide de contrôle et le fait d'avancer des allégations selon lesquelles ce vide s'agrandisse de jour en jour n'a aucune base légale, car ce qui n'a pas été fait aujourd'hui par l'Iran est une réaction faite légalement au titre même de l'accord du PGAC signé entre l'Iran et les 5+1, à savoir les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine et la Russie, et la République islamique d'Iran est endossée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ainsi, la réaction iranienne intervenue conformément à la loi d'action stratégique du Parlement après le retrait unilatéral des États-Unis du PGAC et la réimposition des sanctions pour faire lever les restrictions et en neutraliser ses effets constitue le droit légal et légitime de l'Iran et vise à assurer les intérêts de la nation iranienne qui attend toujours les résultats escomptés prévus dans l'accord nucléaire de 2015. Monsieur Kamolvandi ajoutait que l'Iran a déjà fourni à l'AIOA des informations et une réponse sur 3 sites non déclarés et a même tenu des pourparlers pour dissiper toute ambiguïté. Il a également exhorté l'agence viennoise à ne pas fonder son jugement sur des documents montés de toutes pièces et fabriqués par le régime israélien. La diplomatie iranienne s'est dite toujours prête à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour balayer les doutes soulevés par cette dernière sur le caractère pacifique de son programme nucléaire. Une délégation de haut niveau du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, en visite à Moscou depuis plusieurs jours, continue de discuter de questions d'intérêt commun avec de hautes autorités russes. Les représentants du Hamas ont eu des entretiens avec le président de la Commission des affaires internationales de la Douma russe et le président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a également rencontré le chef du bureau politique du groupe palestinien à Moscou dans la journée de dimanche. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dirige la délégation qui comprend des membres du bureau politique. La partie palestinienne a souligné la nécessité de maintenir une relation stratégique avec la Russie lors de cette visite effectuée à la demande de Moscou. Les deux parties ont également discuté de la situation actuelle des Palestiniens dans les territoires occupés ainsi que des violations israéliennes. L'invitation au groupe palestinien de la résistance survient dans un contexte de détérioration des liens entre le Kremlin et le régime de Tel Aviv. Les tensions se sont récemment intensifiées entre la Russie et Israël, largement en raison du soutien du régime de Tel Aviv à l'Ukraine, ainsi que de ses attaques répétées contre la Syrie. La Russie met en avant comme but de son opération militaire spéciale la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ainsi que la défense des populations du Donbass ciblées par des bombardements ukrainiens depuis 2014. au mois de mai, Sergueï Lavrov critiquant vivement les politiques partiales et non constructives israéliennes concernant l'Ukraine, avait déclaré qu'Adolf Hitler avait du sang juif et que les sionistes faisaient partie des pires antisémites. Sachez d'autre part qu'il y a quelques heures, les forces israéliennes ont tué deux hommes palestiniens dans la ville cisjordanienne de Jenin, au milieu de l'escalade des tensions dans les territoires occupés. Selon les médias israéliens, les deux hommes ont perdu la vie lors d'un échange de tirs présumé au poste de contrôle de Djalma, au nord de Jenin. Depuis deux mois, l'armée israélienne mène une campagne brutale pour briser la résistance croissante dans le camp de réfugiés de la ville. Les forces du régime israélien ont également pris d'assaut plusieurs endroits de la ville cisjordanienne de Jenin, faisant 4 blessés palestiniens et en arrêtant 23 autres. Des sources locales ont déclaré à l'agence de presse palestinienne Wafa que les forces israéliennes ont attaqué la ville et son camp de réfugiés pour prétendument arrêter des activistes. Les Palestiniens ont affronté les forces qui ont tiré des grenades assourdissantes et lacrymogènes sur les Palestiniens, provoquant un certain nombre de cas de suffocation. Les tensions restent vives dans toute la Cisjordanie, alors que l'armée israélienne a intensifié ses raids quotidiens. Selon des sources palestiniennes, les forces du régime ont tué depuis le début de cette année quelque 120 personnes en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza assiégée. Face aux évolutions, le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a affirmé dans une déclaration émise à l'occasion du 17e anniversaire de l'expulsion du régime d'occupation de la bande de Gaza que les Palestiniens continueront leur lutte jusqu'à ce qu'ils rétablissent leurs droits bafoués et qu'ils chassent les occupants de leurs terres ancestrales. Le mouvement a déclaré que les Palestiniens continueront de soutenir l'option de la résistance sous toutes ses formes. Les Palestiniens sont systématiquement soumis à des centaines de crimes et exactions israéliens devenus presque quotidiens, tels que des raids sur des bâtiments et des lieux saints, ainsi que des prises d'assaut et des démolitions systématiques de maisons. Les opérations israéliennes ou crimes de guerre, selon les observateurs et les groupes de la défense des droits de l'homme, violent toutes les lois et conventions internationales. Les forces du régime ciblent régulièrement des civils innocents. Un grand nombre de personnes ont été tristement tuées après 3 jours de bombardement du régime d'occupation lors d'une récente offensive sur la bande de Gaza. Le monde assiste, passif et silencieux, à ces violences israéliennes. Et un mot du football, le nouveau sélectionneur du Team Melli, l'équipe nationale iranienne, arrive à Téhéran. L'entraîneur-chef portugais de l'équipe nationale iranienne de football est arrivé à Téhéran aujourd'hui pour commencer son travail dans l'équipe nationale de foot. Une semaine après l'annonce officielle de la sélection de Carlos Queiroz comme entraîneur-chef de l'équipe nationale de foot, cet entraîneur et ses assistants sont arrivés ce matin à Téhéran pour que l'entraînement de l'équipe nationale commence à partir même d'aujourd'hui. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les sanctions unilatérales ont affecté le droit au développement du peuple iranien. Tout en soulignant les effets destructifs des sanctions unilatérales sur les droits humains du peuple iranien, le vice-chef aux affaires internationales du pouvoir judiciaire d'Iran, s'adressant au rapporteur spécial de l'ONU, s'interroge : comment l'accès aux principaux revenus et ressources financières d'un pays peut être entravé et rester l'objet des restrictions, notamment par le biais d'un embargo contre l'exportation pétrolière. Kazem Gharibabadi, secrétaire général du Conseil suprême iranien pour les droits de l'homme, a rencontré le rapporteur spécial des Nations unies pour le droit au développement, Saad al-Farigi, à Genève et discuté avec, en marge de la 51e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Les deux hommes se sont dit préoccupés par les violations du droit au développement et au bien-être du peuple iranien. Lors de cette réunion, tout en soulignant l'importance de la réalisation du droit au développement pour les pays en développement ou moins développés, Kazem Gharibabadi a annoncé le soutien total de la République islamique d'Iran à la mission du rapporteur spécial. Il a déclaré à propos de la réalisation du droit au développement, dixit, garantir et mettre en œuvre le droit au développement exige une coopération internationale, une solidarité mondiale et une responsabilité partagée. Le secrétaire général du Conseil suprême des droits de l'homme de la République islamique d'Iran a poursuivi « Nous attendons de tous les rapporteurs spéciaux de l'ONU, en particulier ceux qui traitent des droits économiques, qu'il demande au gouvernement de s'attaquer aux obstacles et aux défis auxquels est confrontée la mise en œuvre du droit au développement, en particulier aux mesures coercitives unilatérales, car ces restrictions inhumaines et unilatérales violent les droits des nations. Ces mesures augmentent le coût du développement pour les gouvernements et privent les nations de l'égalité des chances de développement, tant au niveau régional et international. Les sanctions unilatérales ont systématiquement affecté le droit au développement du peuple iranien. Tout en expliquant les actions de l'Iran pour réaliser le droit au développement du peuple iranien, le secrétaire du siège des droits de l'homme, se référant au rapport du rapporteur spécial sur les mesures coercitives unilatérales visant l'Iran, a demandé au rapporteur spécial sur le droit au développement d'attirer l'attention internationale sur cet obstacle fondamental au développement des pays sous sanctions. Le rapporteur spécial onusien a pour sa part qualifié l'application de sanctions unilatérales d'exemple d'abus de pouvoir qui peut rendre difficile la réalisation du droit au développement.